Donc le week-end, on s'inscrit sur le thème de la foi, entre autres, de la foi. Vous n'êtes pas sans savoir que le pape Benoît XVI a ouvert une année de la foi en octobre dernier. Cette année de la foi, donc, elle intervient, enfin, elle arrive pour le 50e anniversaire du Concile Vatican II et le 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique. L'idée de cette année de la foi, Benoît XVI là-dessus est très claire, c'est de nous convertir. De nous convertir, pas tant de retrouver une identité chrétienne, pas tant de revendiquer une identité chrétienne, mais très clairement soi-même de nous convertir, c'est-à-dire de retrouver notre vocation chrétienne. Et ça, ça ne demande pas seulement d'aller évangéliser, même si c'est après un devoir, et puis c'est normal de partager ce que nous vivons de bon, parce que le bon et le bien sont diffusifs de soi, on ne peut pas le garder pour soi. Bien sûr qu'il faut évangéliser, mais d'abord il faut se former. Alors je ne vous ferai pas le piège, ça serait facile, mais je ne vais pas le faire là, ça serait humiliant, enfin je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et enfin voilà, c'était... Mais c'est un petit jeu, c'est demander quels sont les 5 piliers de l'islam. Et programme de 5e du collège, tout le monde me répond en cœur, les 5 piliers de l'islam, fastoche. Si je demande maintenant les commandements de l'Église, alors là, le cœur de tout le monde balance entre « il n'y a pas de commandement, c'est l'ouverture à tout », ou alors on retombe sur les 10 commandements, sur ces anciens cours de cathé, enfin, on est un peu paumé, quoi. Tout ça pour voir que finalement, cette année de la foi, ce que Benoît XVI nous propose, c'est de retrouver les motifs, concrètement, de notre foi, les raisons de notre foi, et l'engagement, on va dire, notre engagement baptismal. Et ce que je voudrais évoquer avec vous maintenant, c'est la question de la vocation chrétienne au titre de l'Alliance. On va arriver, bien sûr, c'est un peu le but, au sacrement du mariage, mais je voudrais d'abord revenir sur la vocation chrétienne, vue comme une alliance, dans le sens où l'Alliance, c'est un amour vécu avec une loi. Il n'y a pas d'amour vécu sans loi. L'amour tout seul, on pourrait dire que c'est de l'amitié, mais de même, automatiquement dans l'amitié, est associé à cette notion d'amour une loi. Et bizarrement, votre sacrement de mariage est le sacrement de l'amour. Le sommet du sacrement de mariage, c'est la charité, c'est pas la foi. Pendant la messe de mariage, on n'évoque pas la foi. On n'évoque pas la foi. On demande, est-ce que vous êtes prêt à suivre les commandements de l'Église? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous êtes prêt à vous donner, à vous recevoir? Voilà. On n'évoque pas la condition de la foi. Mais il s'avère que la foi est quelque chose d'absolument nécessaire pour vivre cette charité. Parce que c'est clair que la charité, c'est ce qui nous anime sur la terre, c'est ce qui nous animera au ciel. C'est le seul trait commun qu'il y a entre la terre et le ciel, c'est la charité. La foi, une fois au ciel, il n'y aura plus besoin d'avoir la foi, parce qu'on sera en face du bon Dieu. L'espérance, pareil, c'est une vertu de la terre, on espère recevoir quelque chose dont on jouit déjà de tous les fruits. Mais une fois qu'on sera au ciel, on n'aura plus besoin de l'espérance. Donc tout ça pour introduire un petit peu mon propos, de vous appeler, de nous appeler à cette conversion pour revenir à notre vocation chrétienne. Si je continue sur mon sujet de l'islam, je voudrais revoir avec vous un petit peu, et moi-même pour grandir aussi, pour ma propre vocation, c'est ce qu'est la vocation chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne? Et je voudrais d'abord parler et évoquer une négation, c'est de dire que la foi chrétienne n'est pas une religion. C'est pas une religion. Alors moi, je suis un être religieux, et vous aussi, je l'espère, mais la foi chrétienne n'est pas une religion. Le principe de la religion, c'est ce que vivent les Incas, les Mayas, les animistes, par exemple, en Afrique. Le principe de la religion, ça vient du latin religere, ça veut dire relier. L'homme, on sait que l'homme est un être spirituel, il est doué d'un esprit, c'est-à-dire d'une intelligence qui cherche la vérité. L'homme est un être transcendantal, c'est pour ça qu'il est debout sur les pattes de derrière, avec le museau levé vers le ciel, pour savoir d'où il vient. Et c'est une quête de l'homme, savoir d'où il vient. Et on sait que les enfants nés sous X même cherchent à savoir où sont leur père et leur mère. Mais une fois qu'on le sait, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose de supplémentaire, il y a quelque chose de transcendantal, transverré, c'est traverser le voile qui apparaît au-dessus de nous. Donc l'homme est un être debout, l'homme vertical, pour chercher d'où il vient. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est un être religieux. L'homme cherche. Il est ascendant à ce niveau-là. Les Incas, les Mayas cherchent, donne une signification à Dieu, donne une signification au vent, à la terre, à la mer, à l'eau. Et ils vont établir des cultes, ils vont établir des religions. Ils vont se relier à ce qu'ils appellent Dieu en offrant des cultes au soleil, au vent, à la terre, à l'eau. Et ça, c'est bien d'être des pratiquants de culte. Mais nous, la foi chrétienne, on n'est pas une religion à ce titre-là. On n'est pas des pratiquants. Le mouvement de la foi chrétienne est complètement autre. Dans la religion, l'homme est acteur. Dans la foi chrétienne, c'est l'inverse. On va arriver tout doucement au mariage, rassurez-vous. La foi chrétienne, c'est l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui descend. Dans le principe de la religion, c'est l'homme qui cherche, l'homme qui monte, l'homme qui donne des noms à Dieu. Dans la foi chrétienne, c'est différent. Ce n'est pas une religion, c'est une révélation. Révélation, ça veut dire que Dieu se révèle. C'est Dieu qui se penche sur l'homme. Dieu qui se penche, Dieu qui descend. Comme, je vais dire, une maman, mais aussi un papa, qui se penche sur son enfant pour voir comment il va. Et on entend toutes ces phrases, « J'ai vu mon peuple, je me suis penché, j'ai vu mon peuple, j'ai vu comme il souffrait, comme il était esclave, et là je l'ai voulu libérer. » Et ce Dieu qui se penche, c'est la caractéristique de notre Dieu qui vient se révéler. Révéler, ça veut dire qu'il vient montrer son visage. Dieu veut faire alliance avec nous pour faire un visage à visage, pour être un face à face. Oui, Dieu est inconnu. Oui, Dieu, il est insensible. Il ne répond pas à mes sens. Et j'ai bien souvent l'impression que je ne sens rien. Et c'est normal parce que c'est Dieu. On verra qu'il nous met une sorte de voile entre nous et lui, comme par respect, pour nous laisser cheminer. Donc tout ça pour dire finalement que dans la religion, l'homme est acteur. Dans la foi chrétienne, dans notre vocation chrétienne, c'est Dieu qui est acteur. C'est Dieu qui est acteur parce que Dieu descend, Dieu s'abaisse. Et cela, dès la création, dès la Genèse. C'est Dieu qui a façonné toute la création, tous ces jours de la création que vous connaissez certainement par cœur. Tout est fait pour le sommet de la création du dernier jour. Tout est fait, tous ces biens concourent au bien de l'homme. Toute la finalité de ce que Dieu a conçu en séparant la lumière des ténèbres, la terre de la mer, la terre du ciel, tout ça pour une seule chose, c'est pour le bien d'une personne, c'est d'un homme et d'une femme. Et plus que de le façonner, Dieu a tout fait concourir au bien de cet homme pour lui donner tout pouvoir. Pourquoi donner tout pouvoir ? Parce que Dieu a voulu lui donner le meilleur de lui-même, son bien même, sa bonté même. Je vous disais, le bien est diffusif de soi. Et le sommet du sommet, c'est le face-à-face. C'est que la face de l'homme correspond à la face de Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Dieu a voulu un face-à-face avec l'homme. Dieu a voulu faire l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme est image et ressemblance de Dieu, ce qui est absolument, absolument fou pour une créature humaine. Scandale pour les anges. Les anges sont tout puissants. Nous, on est limités par notre chair, par notre poids, par notre taille, par nos capacités, par notre débrouillardise ou pas, notre type d'intelligence. Et ça, pour les anges, c'est scandaleux. Mais je reviens à mon image, c'est que Dieu s'est abaissé pour donner vie à Adam, à donner vie à l'homme, pour tout lui donner. Pour faire alliance avec l'homme, pour lui donner un amour et une loi. Et cette loi, en l'occurrence, ça sera de dominer et de se soumettre à la création. Dieu a tout donné, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'à Adam, il donne le moyen d'être une communion parfaite. Pour ceux qui ont travaillé tous les textes de Jean-Paul II, je fais référence à cette vocation à la communion. On ne va pas trop s'étendre parce que sinon je n'aurais pas fini pour la messe. Mais comme Dieu est un être de communion entre les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, cette même personne divine, cette même Trinité qui a façonné l'homme, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Ce n'est pas que Dieu créateur, Dieu barbu sur ces petits nuages qui a façonné l'homme. Non, non. C'est la Trinité même qui se met en face à face avec sa créature. C'est la Trinité même qui dit « faisons l'homme au pluriel comme à notre image, à notre ressemblance ». C'est-à-dire que l'homme est appelé au même type de relation, c'est-à-dire à la même vocation, à la communion. Et ce face-à-face avec Dieu ne suffit pas à Adam. Il lui faut un autre face-à-face, un autre visage à visage, un autre type d'alliance. Et ça, Dieu le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que pour être en face-à-face, il faut être deux. On ne peut pas vivre l'altérité tout seul. Et pour ça, il va lui présenter tous les animaux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut un autre. Et je vais lui faire, du coup, une aide qui lui soit semblable. Ce n'est pas un chimpanzé, une girafe, un lapin, aussi gentil soit-il, hein, tous ces petits animaux. Non, il lui faut Ève. Il lui faut Ève, il lui faut le féminin, il lui faut l'autre. Et c'est là où le genre humain va être comme séparé en masculin et en féminin, pour faire un vis-à-vis, un face-à-face. Et en effet, quand Adam, masculin maintenant, sera en face de son Ève, son féminin, son altérité, là, ça sera un cri de jubilation. Parce que là, il y a possibilité d'alliance, il y a possibilité d'un visage à visage, il y a possibilité d'un face-à-face. Il y a ce face-à-face avec le Seigneur, mais pour achever sa création, Dieu aura besoin d'un face-à-face d'homme à homme, avec un grand H, hein, d'homme à femme, pour être bien clair par rapport au thème qui nous occupe tous, certainement, par rapport au mariage pour tous. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas du tout mon sujet. Donc ça veut dire que Dieu veut nous donner son bien dans ce face-à-face qu'il veut faire avec nous et dans ce face-à-face qu'il veut faire avec la femme. Il y a comme une obligation pour Adam, pour devenir vraiment image et ressemblance de Dieu, de trouver la femme. Et Dieu nécessite, je ne sais pas si ça se dit en français, se donne l'obligation de laisser l'homme trouver une femme pour achever sa création. Dieu ne se donne pas la possibilité d'achever sa création tout seul. Il faut que l'homme trouve une femme et que la femme trouve un homme. Et ça veut dire qu'il faut ce face-à-face, il faut ce visage-à-visage pour répondre à cette vocation. Ça veut dire qu'il y a une saine attirance, il y a une vraie communion dans le visage, dans la lumière, dans la nudité, parce que c'est comme ça qu'ils se sont reconnus, il y a une vraie révélation qui sera plus horizontale mais qui est aussi verticale, parce qu'en se donnant à son mari, en communiant avec Adam, Ève va faire de son homme un être transcendantal qui sera enfin capable de jouir du face-à-face vertical et vis-à-vis et la même vice-versa, pardon, pour la vocation d'Ève qui aura besoin de ce face-à-face avec son époux pour achever sa création, pour enfin correspondre à cette vocation de face-à-face avec le bon Dieu. Alors, vous allez me dire, c'est mignon, c'est joli, c'est un peu bisounours, on va tout doucement descendre un peu plus sur le plancher des vaches. Mais cette saine attirance du départ, elle est constitutive de notre vocation. Mais le problème, on le sait, il y a eu le péché originel, cette sainte attirance s'est transformée en convoitise, cette nudité est devenue comme un obstacle, comme un trop grand face-à-face, et il a fallu que cette nudité soit cachée, cette cachée par la pudeur, parce que cette nudité est devenue le lieu du manque de communion, en tout cas, de la convoitise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que le face-à-face étant abîmé entre Dieu et l'homme, l'homme et la femme, le face-à-face avec l'homme et Dieu sera abîmé. C'est vrai qu'il va être abîmé. L'homme qui ne peut plus voir sa femme, je dirais dans un certain sens, il n'est plus capable de voir Dieu. Parce que c'est grâce à sa femme qu'il peut être image et ressemblance de Dieu et être regard à regard avec son Créateur. Je vous laisse prendre la chose aussi et vice-versa avec l'épouse. C'est que Dieu, encore une fois, c'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative et Dieu inlassablement, dans sa patience, dans sa persévérance, Dieu nous aime d'un amour jaloux, c'est Dieu qui va revenir encore une fois pour... Il y a eu une première alliance lors du façonnage de l'homme et de la femme, il y a une deuxième alliance, c'est que l'homme va... tout d'un coup être sujet de tous les bienfaits de Dieu, Dieu va se remettre à chercher l'homme. Dieu, encore une fois, va se pencher. Dieu va s'abaisser. Juste pour les nouveaux arrivants, j'expliquais juste que le principe de la religion, c'est l'homme qui va chercher son Dieu, l'homme qui met un nom sur son Dieu, qui établit un culte. L'homme est acteur, parfois créateur de son culte, même parfois créateur de sa religion. Pour nous, c'est l'inverse, c'est une révélation, c'est Dieu qui descend. Et tout ça pour dire que Dieu va encore une fois descendre de sa grandeur, de sa toute-puissance, sans absolument rien abîmer et retirer de sa propre personne. Dieu va descendre sur Abraham, Dieu va descendre sur Moïse. Encore une fois, il veut faire alliance, il veut un visage à visage. Mais l'homme là est abîmé par le péché, il n'est plus capable d'assumer le face-à-face, alors Dieu va se voiler, Dieu va se cacher, il faudra mourir pour le voir. On comprend toute la crainte de Moïse pour ne être protégé de la transfiguration, mais cette lumière beaucoup trop importante, insupportable de Dieu face à l'homme qui n'est plus capable de vivre ce face-à-face. Mais c'est encore Dieu qui prend l'initiative. Il va se pencher sur Abraham, il va se pencher sur Moïse pour refaire alliance avec eux. Il va refaire une alliance parce que Dieu veut absolument que l'homme puisse jouir de ce face-à-face. Parce que c'est le seul moment, c'est la seule manière que Dieu peut lui permettre de jouir de tous ses biens. Et c'est comme ça qu'il fait alliance, il manifeste son amour, encore une fois, un amour associé à une loi. Alors que l'homme avait tourné le dos à Dieu, Dieu va le tour, comme le tour du buisson, pour encore, encore, encore se remontrer à l'homme. Il va l'emmener au désert pour lui dire « Hé, regarde-moi là, tu ne me vois pas, mais je suis juste devant toi, remets-toi en face à face, remets-toi dans la contemplation de mon visage, ça sera ton seul lieu de libération, c'est ta vocation. » Et Dieu inlassablement va chercher. Et on a ça dans le prophète Osée, vous l'avez peut-être pris pour certains dans, comme texte dans votre messe de mariage. Cette notion d'alliance, c'est tout l'image d'Israël qui est choisie par Dieu et qui va être vue comme l'épouse de Dieu, parce que c'est avec Israël que Dieu veut faire alliance. Et parfois, Israël n'est pas fidèle, elle veut retourner à ses anciens maris, à ses anciens Baal, et Dieu va parler de son épouse infidèle, et même de sa prostituée. Et le livre d'Osée, ce texte merveilleux que vous avez certainement lu dans vos préparations au mariage, c'est Israël, mon épouse, ma fiancée, je vais la séduire, et du coup je vais l'emmener au désert pour la séduire, et là je pourrai parler à son cœur, et là quand elle va retrouver mon visage, quand elle va retrouver ce visage à visage, ce face à face, et bien là elle va se redonner à moi, et là je la refiancerai dans la sécurité, tout ce qui était violence en elle, je lui mettrai la douceur, toutes ses armes, ses épées, ses lances, j'en ferai des socs de charrues voilà, pour cultiver la terre. Et je te fiancerai dans la sécurité, dans la douceur, ce texte que vous connaissez certainement. Mais voilà, Dieu est voilé parce que nous sommes plus capables de vivre totalement ce face-à-face. En tout cas, c'est une initiative, encore une fois, de Dieu. Dieu ne se lasse pas de chercher l'homme. Et le top du face-à-face, encore un autre type d'alliance, finalement, il n'y a que des alliances là-dedans, c'est l'incarnation. Les événements de Noël que nous avons célébrés il n'y a pas très longtemps, la nativité, c'est absolument fou, même les Juifs n'y ont pas cru, alors qu'ils y étaient préparés, quasiment mot pour mot, par tous les prophètes. L'incarnation, c'est un des plus beaux signes, encore une fois, de l'abaissement de Dieu. Ce n'est pas un super-homme qui a été choisi, ou qui a choisi Dieu, ce n'est pas la perfection d'un homme, pas du tout. C'est Dieu qui descend. Dieu qui descend dans la petitesse du corps d'un bébé. C'est le Dieu qui descend dans la petitesse de notre corps, aussi fragile soit-il, aussi limité soit-il. Dans la création, il n'y a pas plus limité qu'un bébé. Un bébé, c'est dépendant, un bébé. Un petit veau, un petit poulain, il est super, super indépendant tout de suite, quoi. Le petit bébé, il est, s'il est laissé seul, sans amour et sans loi, sans alliance, il meurt. Il meurt. Il n'y a pas plus limité qu'un bébé. Il n'y a pas plus pauvre qu'un bébé, un petit bébé dans la nudité. Hein, si la nudité est nécessaire pour l'amour, est nécessaire pour l'alliance, pour se reconnaître visage à visage, dans le pot à pot, qui est nécessaire aussi pour le pitchoun, hein, pour le stimuler, il faut caresser le bébé, il faut le toucher, il faut se le porter sur soi, même s'il faut les habiller, surtout en Picardie, ce qui fait un peu frais. Hein, mais un bébé qui n'est pas aimé, voilà, il ne s'accroche pas à la vie. Mais un bébé, il n'y a pas plus pauvre d'un bébé. Alors on dit que c'est mignon, on idéalise les bébés. Mais il n'y a pas plus égoïste qu'un bébé. Pourquoi il fait des sourires à sa maman? C'est parce qu'il voit, il voit un sein qui va le nourrir. Est-ce que vous croyez que votre bébé, il vous aime? Ouais, si, ça va venir. Ouais, non, si, c'est super beau. Mais le bébé, il a faim. Il a besoin de toucher votre peau, il a besoin de sentir ce corps duquel il est arraché. Quelle violence! C'est un viol, tant pour la maman que pour le bébé. Il n'y a pas plus pauvre qu'un bébé. Et pour les Juifs, le bébé, ça ne sert à rien. Ça coûte de l'argent, ça ne travaille pas, ça ne rapporte pas. Politiquement, ça ne sert à rien. Juridiquement, ça n'a aucun pouvoir. C'est hyper pauvre, un bébé. Mais c'est un homme. Mais c'est un homme de la race des hommes. Et ce petit bébé, ce n'est pas le bébé du papa et de la maman. Ce bébé, c'est une troisième personne. C'est déjà Dieu. C'est déjà Dieu. C'est déjà un troisième être. C'est déjà le sujet de la création. C'est pour lui que la terre et le ciel ont été séparés, c'est pour lui que les ténèbres et les lumières ont été séparés. C'est pas notre chose, c'est un cadeau extraordinaire qui est donné au couple, c'est un cadeau extraordinaire. Cette alliance dans, je reviens à ma nativité, excusez-moi je m'emballe avec les pitchounes, mais bon, j'ai une bébé addiction, enfin, je me soigne, mais c'est... On va s'arrêter là. Donc, faites gaffe à votre pitchoun, là, parce que je vais le manger tout cru, mais bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu vit cet abaissement. Dieu vit cet abaissement parce que, on va donner ce nom à Dieu qui est très important, c'est Dieu est miséricorde. Misericordia, un cœur qui aime la misère, un cœur qui est attiré par la misère. Un cœur qui aime, et en hébreu le mot est encore plus fort, c'est les entrailles d'une mère qui tressaille devant la souffrance de son enfant. Misericordia, un cœur qui est attiré par la misère, c'est que Dieu il est aimanté par notre misère. Et nous sommes tous des miséreux, et moi le premier. On est tous des miséreux parce qu'on a un potentiel divin extraordinaire, mais j'arrive pas toujours à faire le bien que je voudrais faire et je fais parfois le mal que je voudrais pas faire et c'est ma plus grande souffrance. Je me suis engagé à t'aimer, je veux t'aimer, je l'ai dit devant le curé. Je le veux, mais parfois j'y arrive pas parce que j'ai pas toutes les capacités. Je suis limité. Et pour revenir à ce bébé, Dieu a fait miséricorde, Dieu s'est penché jusqu'au corps d'un petit bébé de notre race, c'est sur mon corps qu'il s'est penché, pour venir l'habiter. Le Christ, lui, est vrai Dieu et vrai homme. Et il a vécu normalement comme un enfant en disant à Marie, non, excuse-moi, moi je suis Dieu. Non, Jésus a tété le sein de sa mère. Certainement qu'il a pleuré pendant la nuit, peut-être qu'il s'est chopé une bronchiolite en venant en Picardie, ou, enfin je sais pas, enfin, je sais pas trop, ils ont bougé, il paraît, ils sont en Égypte, donc je sais pas par où ils sont passés maintenant avec les locaux, on sait pas. Mais voilà, un des lieux d'alliance, c'est que Dieu, il est têtu, quoi. Il est têtu et il veut continuer à faire alliance avec nous. Il veut ce face-à-face. Et un des face-à-face extraordinaires qu'il nous a donné, c'est cette incarnation. Dieu veut se donner. Quand je dis qu'on n'est pas une religion, c'est exactement ça. C'est qu'on est dans le lieu de la révélation. Et moi, ma réponse, c'est pas un culte, c'est pas une pratique. Je vous en supplie, ne soyez pas pratiquant. Et si vous êtes pratiquant, cessez de l'être, absolument. Parce que l'amour, ça se pratique pas. On pratique le foot, on pratique l'aviron, on pratique des choses. L'amour, ça se pratique pas, ça se vit. C'est pour ça qu'on est des vivants, on est des croyants. Ça veut dire quoi? Dieu se penche vers moi, alors moi, je le laisse venir vers moi. Et ma réponse, c'est quoi? C'est la foi. C'est vrai, c'est la foi. C'est de croire en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une adhésion ferme et totale de toute mon intelligence et de ma volonté à tout ce qui m'est révélé par Dieu. Et ça, c'est super important. Ce n'est qu'une réponse, la foi. Ce n'est pas d'abord une pratique. Ce n'est surtout pas une identité. Et si vous allez manifester pour le mariage pour tous, ce n'est pas parce que votre identité de catho est en danger. Ce n'est pas parce que l'Église est en danger pour qui vous prenez. L'Église, elle n'est pas du tout en danger. L'Église, c'est le corps du Christ. Elle est Tintin pour qu'elle soit en danger. Elle est déjà glorieuse. Et vous-même, ce que vous êtes comme membre de l'Église, vous êtes déjà sauvé. Vous êtes, par votre baptême, on va en parler après, par votre vocation baptismale, vous êtes déjà sauvé. Donc on n'est pas en train de défendre un parti, on n'est pas en train de... L'Église n'est pas assiégée, il n'y a pas de risque là-dessus. Par contre, vous pouvez vous défendre en tant qu'être humain, en tant que corps qui a été habité par Dieu, corps qui a valu la peine que Dieu vienne l'habiter, corps qui a été dignifié, ça ne se dit pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a vu sa dignité parce que Dieu a pris la peine de venir l'habiter. Et c'est vrai que cette alliance, elle m'est nécessaire. Il faut que je m'allie avec une femme. Au même titre qu'un petit rocher va se frotter sur l'autre rocher pour devenir un beau galet bien rond. Ça frotte quoi, ça chauffe, ça fait de la poussière, il y a de l'érosion. Mais n'empêche qu'il est bien rond, il devient tout doux après ce galet. Donc, ma vocation chrétienne, c'est de croire en Dieu. C'est pas de la pratique. Et bien sûr que, parce que Dieu se penche vers moi, je vais lui répondre. Je vais dire, oui, viens me visiter, viens me sauver, viens me transformer. Et le fruit du baptême, pour ceux qui ont déjà vécu cette chance d'avoir des pitchounes, moi quand je baptise un bébé, ma prière, je ne sais pas toujours si elle marche concrètement. Mais quand je baptise un bébé, je suis sûr que ça marche. Parce que Dieu a promis qu'il donnerait sa grâce, c'est-à-dire sa vie même dans les sacrements. Quand je plonge un bébé dans l'eau, qui est la mort même de Jésus, et quand je le ressors, c'est la résurrection même de Jésus. Eh bien, bingo, deux cadeaux, ce bébé, un, il obtient la vie éternelle, qu'il soit gentil, pas gentil, qu'il soit blond, roux, qu'il soit gros, gras, petit, préma, enfin ce que vous voulez, quand je baptise ce bébé, il obtient automatiquement la vie éternelle. Et deuxième canal, c'est qu'il devient fils de Dieu, parce qu'il devient comme un autre Christ. C'est pas moi qui dois me perfectionner, qui dois devenir super catho ou catho style, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma page Facebook pour la retrouver, qui est assez rigolote. C'est pas la perfection, pas du tout. Je ne peux pas être parfait, je suis un miséreux. Il faut que je me laisse visiter, abaisser, il faut que je laisse Dieu me visiter, il faut que je me laisse miséricordier par Dieu. Et le fait que nous soyons baptisés, et ça, ça paraît très très important, C'est ça qui fait de moi un croyant. C'est que Dieu veut me communiquer sa propre vie. Dieu veut me diviniser. Et ça, c'est notre vocation baptismale. Dieu veut nous communiquer. Il nous a fait image et ressemblance de Dieu. Il nous a tout donné. Le récit mythique de la Genèse nous montre que on s'est coupé de cette relation avec Dieu. On a abîmé notre capacité à la communion avec lui et avec l'autre. Mais Dieu veut absolument qu'on arrive à ce face-à-face. C'est indispensable parce que c'est notre vocation au bonheur qui est en jeu. Alors Dieu va prendre d'autres chemins. Mais il veut absolument nous communiquer sa vie. Et ça, il sait que l'homme est cabochard. Il sait que l'homme est super bien fait parce que c'est lui qui l'a fait. L'homme, en plus, est doué de vachement d'intelligence et d'un petit peu de volonté. Et Dieu se dit, mince, je lui ai trop donné, et il va être foutu de vouloir y arriver par lui-même. Et il va être top malheureux parce qu'il ne va jamais y arriver. Parce que l'homme est limité, et je suis terriblement limité. Et c'est pour ça que, pour nous communiquer sa vie, qu'on appellera sa grâce, c'est sa propre vie, sa propre divinité, parce que Dieu nous veut nous prendre avec lui, parce qu'on vient de son cœur et on doit y retourner, et bien pour nous communiquer sa grâce, il y a deux moyens. La grâce se communique par les sacrements et par la prière. Et le premier des sacrements, et qui est en même temps totalisant, c'est la vocation baptismale. Et pour tous ceux parmi vous qui sont baptisés, je l'espère en tout cas beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà transcendés, vous avez déjà gagné la partie, comme par avance. Je ne résiste pas à vous raconter une toute petite histoire de Pitchoun. Voilà. Je crois que c'est la seule de la journée. J'ai l'occasion de travailler, mais de me donner, quand j'étais en Argentine, en mission, dans un service de néonates. Ouais, je finis par en parler, je suis désolé, mais j'étais pas prêtre, j'étais tout jeune religieux à cette époque-là. Et j'ai passé, alors moi je préfère les bébés joufflus qui rigolent, hein, mais j'ai l'occasion de rencontrer des pitchouns vraiment tout fragiles, tout petits, et qui allaient assez rapidement retrouver le patron là-haut, qui avait des vies déjà achevées. Ils n'ont pas eu le temps de faire HEC ou de perfectionner leur trait de caractère, mais ils avaient déjà clairement accompli leur vocation. C'est presque vachement apaisant, en fait. Je dis ça, mais ce n'était pas le fruit non plus de ma chair. Donc, voilà. Et j'étais amené à accueillir des petits bébés qui étaient trop faibles pour tenir le coup. Et pendant leur petit temps sur la terre, je me suis dit, mais on est des êtres de relation. Il faut absolument qu'ils vivent ce face-à-face avant d'aller voir l'autre face-à-face. Et il faut qu'on puisse faire alliance tous les deux. Et mon rôle, c'est un peu fou, hein, je vous l'accorde, et j'aime pas cette situation-là. Elle était dangereuse pour moi, très dangereuse pour moi. Mais le Seigneur m'a fait la grâce d'aller accompagner ces pitchouns qui étaient en train de partir. C'est-à-dire, je les récupérais tout chaud sortis du ventre de leur maman, par les voies naturelles ou pas naturelles. Et c'est des pitchouns qui étaient trop faibles. Et donc, je les caressais, je les touchais, je leur faisais plein de causettes. On se disait bonjour, voilà, on tchatchait un peu ensemble pour se retrouver. Et puis on les préparait tout doucement à rejoindre le Seigneur, si le temps nous était donné de pouvoir les baptiser. Puis ceux pour lesquels c'était trop tard, ce n'était pas très grave. Le tout, c'est qu'on se rencontre et le Seigneur, il n'y a pas vraiment de souci pour ça. Il ne peut pas leur demander quelque chose qu'il n'aura pas permis. Et notamment un jour, un bébé un petit peu plus costaud, qui était plus fragile, qui était en train de partir, c'était assez imminent. Et moi, j'étais jeune religieux, je n'étais pas prêtre. Et l'Église sait que c'est tellement important le baptême qu'elle donne la possibilité à toute personne, même non catholique, de baptiser dans la mesure où elle a la même intention qu'à l'Église lorsqu'elle baptise. C'est-à-dire de faire devenir membre de l'Église, c'est-à-dire membre du corps de Jésus. Il suffit juste d'un petit peu d'eau. Et donc moi je me disais, ce bébé, maintenant je suis prêtre, mais à l'époque je suis celui qui a baptisé le plus de bébés dans toute la congrégation, parce que voilà. Et donc à ce moment-là, j'étais devant une jeune maman, 14 ans, qui ne faisait pas forcément partie d'un groupe de prière, hein, qui avait plutôt eu son bébé sur le trottoir. Et la maman était complètement démunie devant ce pitchoun, et moi mon rôle c'est de faire du lien pour qu'elle comprenne en même temps sa mission de maman à ce moment-là. Et j'étais prêt à baptiser ce bébé, puis je me suis dit, mais en fait j'ai pas plus de droits qu'elle, et le top ce serait qu'elle baptise elle-même. Moi je suis religieux, alors pour eux tout le monde c'est les curés, quoi, parce qu'on est habillé. Et du coup je me suis dit, mais en fait elle pourrait très bien le faire, quoi, et ça serait peut-être de la bombe si elle pouvait le faire. Et je lui explique un peu ce que c'est que le baptême avec mes mots, avec un espagnol qui était encore commençant, chancelant. Et je lui dis, est-ce que tu as bien compris ce que je te propose, est-ce que tu es prête? Et elle me dit, si j'ai bien compris, j'ai accouché une première fois, c'était top douloureux, mais j'ai donné la vie à un bébé mortel. Et c'était pas des mots. Et par contre, avec le baptême, c'est comme si j'accouche une deuxième fois, là ça fait pas mal, mais par contre, tu donnes la vie pour toujours. En gros, je fais mon job de maman. Et moi, là, je dis, bah mince, en fait, ouais, c'est un peu ça, quoi. Ce bébé, il a déjà gagné la partie. Sa vocation sur la terre lui, est suffisante. Elle est achevée, sa vocation baptismale. Tout ça pour dire, finalement, que il m'est donné par le baptême, il m'est donné par le baptême de profiter totalement de la vie de Dieu. Dieu me fait entrer, alors le terme entrer dans l'Église, alors attention, c'est pas cette institution dont je parle, c'est l'Église avec un grand E qui est le corps même de Jésus. C'est que par le baptême, je ne suis pas désapproprié de mon corps, bien au contraire. Je m'appartiens, je me possède et je m'habite encore plus, mais ce corps, il devient maintenant lieu d'habitation de Dieu. Souvent, on pense que dans la prière, il faut se désapproprier, enfin, le vide en soi. Non, c'est n'importe quoi, ça. La prière, c'est se laisser habiter par Dieu. Dieu descend, Dieu descend. Le but, c'est pas de l'imiter. Le but, c'est de se laisser habiter. Si un ami vient me visiter, c'est qu'il vient rentrer dans ma maison. Et le but de cette vocation baptismale, c'est de se laisser habiter par Dieu, et très concrètement, et philosophiquement, et je dirais presque matériellement, nous changeons de destination d'être. Nous sommes divinisés, ontologiquement, nous ne sommes plus que de la race humaine, nous sommes de la race divine. Et notre baptême fait que nous appartenons. Nous avons donc cette capacité de Dieu à être enfin image et ressemblance. Et que c'est que dans cette vocation baptismale que nous pouvons. Alors, les grâces nous sont données au baptême. Devenant adulte, il faut le comprendre, il faut le connaître. C'est tout le rôle de la catéchèse que vous avez reçu petit, ou que vous n'avez pas reçu, ou que vous avez mal reçu, c'est aujourd'hui. Et Benoît XVI nous demande, dans cette année de la foi, de retravailler notre foi chrétienne. C'est pas qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, pas du tout. C'est quelle est votre vocation. Et il faut se dépolluer de toute cette éducation chrétienne qui nous a poussé à être bon, performant, gentil, charitable. Être catho, c'est pas être charitable. On a réduit, et Benoît XVI le dit dans sa lettre apostolique qui introduit l'année de la foi, attention, on réduit le catho, la foi catholique, à la charité. Mais pas du tout. La foi catholique, c'est pas d'abord être charitable, c'est d'abord être sauvé, c'est d'abord être guéri par le Christ. Et ça, c'est important. Parce que si on réduit notre foi chrétienne à être charitable, ben on est vraiment nul, parce qu'il y en a qui sont vachement plus charitables que nous. Et Dr Schweitzer, ou tous les gens qui sont charitables autour de nous aujourd'hui, ne sont pas forcément cathos. C'est vrai que la conséquence de la foi a fait qu'on s'est poussé à la charité. Parce qu'on s'est poussé à l'alliance avec les autres, à l'amour et à la loi. Donc on a mis en place des scènes de charité. Tout ce qui est actuel, les hôpitaux, les orphelinats, les syndicats, les coopératives, tout le système entrepreneurial aujourd'hui, ça vient de l'Église. Mais la preuve, c'est que l'Église n'y est plus du tout présente, ça tourne. Ça tourne. C'est pas forcément toujours top, mais ça tourne. Parce que c'est le bon sens de l'homme d'être charitable. Donc nous, notre foi, c'est la foi qui nous pousse. C'est le fait qu'on nous croyons en Seigneur, parce que nous lui répondons. Et de fait, bien sûr, nous serons charitables. Celui qui dit « je suis croyant, pas pratiquant », c'est rigolo, enfin, il faudrait bien qu'il s'enregistre. On ne peut pas être croyant, non pratiquant. C'est comme si vous disiez à votre épouse ou à votre époux « je t'aime, je te touche pas, je pratique pas ». L'amour qui ne se manifeste pas, il meurt. Si un ami dit « je veux pas te voir, je veux pas te parler, je veux pas prendre le café avec toi, je veux pas te liker sur Facebook », c'est plus un ami, quoi. Enfin, si, sur Facebook, il y en a quand même pas mal de gens comme ça. Mais l'amour qui pose pas de gestes, l'amour qui ne se manifeste pas... Donc voilà, après, il faut respecter les gens qui disent « je suis croyant, non pratiquant ». Peut-être qu'ils ont des soucis dans leur histoire avec l'Église, je les comprends complètement. Mais pour dire que l'amour me pousse à poser des gestes, parce que j'appartiens, parce que je me laisse habiter. Et c'est là où on arrive tout doucement à cette vocation au mariage, qui est l'expression même de votre vocation baptismale. Entre guillemets, et ça, on ne peut pas trop le dire aux célibataires, mais parfois, on le sent très clairement, c'est que chacun d'entre vous, messieurs, vous avez besoin de votre femme pour achever votre création. Dieu n'a même pas les pouvoirs d'achever votre création. Il vous faut une femme, il faut faire alliance pour poser l'amour dans le cadre d'une loi, parce que vous vous engagez, parce que vous l'avez choisi, parce que vous avez vu en face de vous le bien le plus grand qui vous était présenté. Et ce bien, du coup, votre intelligence l'a vu de façon lumineuse et a dit à votre volonté, je le veux, ce bien. Et là, j'ai pu dire, je te reçois, et du coup, je me donne à toi. Et ça pour toujours, ce qui est super rassurant. Parce que ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Quand Dieu donne, et aujourd'hui même, l'alliance avec Abraham et avec Moïse, elle est toujours bonne. Hein. Les Juifs ne sont pas que des... Ce sont nos frères aînés. faut espérer qu'il découvre plus vite possible le Christ, mais ce sont nos frères aînés. Et la promesse faite à Abraham, elle est toujours valide. Donc ce sacrement de mariage, il vient encore comme une aide, comme un soutien qui est donné à l'homme et à la femme. Ce que dit l'Église, c'est que pour mener une communauté pour toute la vie, parce qu'il faut vivre cette alliance, cet amour et cette loi au sein d'une communauté, du couple, il faut l'aide du Seigneur. Il n'est pas possible de faire alliance avec nos propres forces. Parce que cette alliance, elle est, si nous sommes aujourd'hui membres de l'Église par notre baptême, on est le membre de ce corps dont le Christ est la tête, eh bien, je dirais qu'en faisant alliance tous les deux dans votre vocation au mariage, vous recevez une grâce toute spéciale d'être une petite Église. D'être une petite Église, ça veut dire que vous devenez à vous-même un extrait, on va dire, un petit extrait de la race humaine. C'est que vous êtes un homme qui va être humanisé, dans tous les sens du terme, on ne va pas rentrer dans le concret parce que ça serait dangereux, par une femme. Et c'est votre épouse qui va faire de vous un homme, qui va achever ce que Dieu a commencé en vous. Vous tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne vous suffisez pas. Et Dieu non plus ne peut pas se suffire. Et vous, les épouses, c'est pareil. C'est grâce à votre mari. C'est grâce à celui avec qui vous avez fait alliance que vous allez pouvoir achever votre vocation, achever votre être, à plein de niveaux. Achever, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, terminer, accomplir, et du coup, toucher à cette vocation au bonheur. Pas forcément une vocation à la vie plaisante et à la vie facile. Le mariage est très loin de là. Mais le fondement du mariage et le fruit sera vraiment la paix et la joie. Ça veut dire que, comme homme, je deviens responsable en faisant alliance et en rentrant dans ce face-à-face avec l'autre. Je rentre dans une responsabilité qui est la même qu'à la Genèse, dominer la création et soumettez-la. Je rentre dans la responsabilité de terminer l'autre. Ça veut dire de sanctifier l'autre. Mon seul but, comme je crois en Dieu, parce que je me suis laissé miséricordier par Dieu, j'ai accueilli Dieu qui s'abaissait sur moi, c'est faire la même chose avec l'autre. C'est m'abaisser sur la misère de l'autre. C'est être patient sur la misère de l'autre. Donner du temps pour que l'autre puisse changer. Et en n'ayant qu'un seul et unique but, c'est le bien de l'autre, pas mon propre bien. Si vous faites des efforts pour changer l'autre, pour faciliter votre propre vie, vous êtes mal barré, puis en plus vous êtes un peu manipulateur, et c'est pas de l'amour, ça s'appelle de l'arrangement. Laissez-vous visiter par l'autre, parce que vous allez devenir responsable de la sanctification de l'autre. Et l'autre sera aussi... Si on dit que le mariage est centré sur la charité, c'est clairement la foi. Je dirais d'une certaine manière, alors c'est pas très juste de dire ça, mais c'est la foi en l'autre. C'est de croire fermement, avec une ferme conviction, que l'autre est le bien le plus grand. Que les yeux de l'autre, le visage de l'autre, me sont nécessaires. Et que si je ne peux plus supporter ce visage, je ne peux pas non plus supporter le visage de Dieu. Mon alliance avec l'autre m'oblige au face-à-face. Chose qui est hyper dure. Ce face-à-face, il s'est vécu avec Adam et Ève dans la nudité. Il fallait qu'ils soient nus, sans habit. Il fallait qu'ils soient nus dans la lumière pour se reconnaître, nus jusqu'au toucher. Je repense à mes prémas, le toucher, il leur fait faire des bons. Youhou ! Un bébé qui est touché, qui est caressé, c'est beaucoup mieux qu'une sonde de gavage, comme si on engraissait des oies, quoi. Moi, j'avais des pitchounes comme ça, stop. Qu'est-ce qu'il faut que je dise encore ? Donc voilà, cette vocation d'alliance me permet dans l'amour de vivre une loi. Parce que cette loi, c'est le choix que j'ai fait. C'est le discernement que j'ai opéré parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi comme bien le meilleur. Je t'ai choisi comme la femme qui va me permettre d'atteindre ma vocation au bonheur. Je t'ai choisi comme l'homme qui va permettre d'atteindre ma vocation au bonheur. Alors voilà, c'est clair qu'au début du mariage, c'est joli. Et le curé qui vous a préparé vous a vendu du rêve. Voilà, après, quand on, tout doucement, on ouvre le train d'atterrissage, qu'on arrive sur l'asphalte, voilà, on se rend compte que la température au sol, parfois, peut être un peu différente de ce qu'on avait pensé, que le beau chevalier, en fait, n'est pas si costaud que ça dans l'armure, et que son grand cheval noir, en fait, c'est un âne. Enfin, bon, voilà, enfin, Père Pierre-Marie vous parlera après toutes ces choses. Il sera très croustillant et très intéressant, et vous verrez que vous êtes normaux finalement, hein, et que vous n'êtes pas si mal que ça. Mais Dieu me demande très concrètement d'aimer qu'une seule personne. C'est les yeux que j'ai en face de moi. Et si j'arrive plus à supporter ce regard de l'autre, ben c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Et c'est important, depuis le péché originel, la nudité est devenue le lieu du vol et du viol. Le lieu où c'est la convoitise. Et bizarrement, aujourd'hui, la nudité est devenue à la mode. On ne peut plus se passer dans les réclamations, dans les réclames de mettre des femmes nues, même des hommes nus maintenant. C'est rigolo parce que enfin, les choses sont un petit peu inversées. Enfin voilà, retour à la ligne. Mais cette nudité est nécessaire. Jusqu'à, et ce qui est bizarre, c'est que quand je parle de nudité, c'est beaucoup plus loin que la nudité du corps. Parce que bizarrement, la plus grande nudité dans le couple, ça sera le lieu de la transcendance. Le lieu où on se rappelle qu'on n'est pas là seulement pour se faire du bien ou pour perpétuer l'espèce. C'est une absolue nécessité. De supporter le face-à-face avec l'autre. Et la chose la plus étonnante, la plus comique, je dirais, c'est que le lieu le plus difficile du face-à-face dans la nudité, c'est pas l'acte conjugal. Enfin, je me permets de vous le dire à votre place, moi j'ai qu'une essence subjective de la chose. C'est qu'un des plus grands lieux de difficulté, alors peut-être que pas pour vous, mais de ce que j'entends pour beaucoup, c'est le lieu de la prière conjugale. C'est le lieu de la prière conjugale. C'est le lieu de la transcendance. C'est le lieu où je me rappelle que tes yeux, ton regard, ton visage, il est fait pour un grand bien pour moi. Pas pour ce qui est plaisant pour moi. Mais t'es la femme qui va me faire devenir un homme. T'es la femme qui doit m'envoyer au ciel, dans tous les sens du terme. Tu es celui aussi qui doit me faire monter au ciel. Tu dois me sanctifier. Ça veut dire que tu dois me dire ce « je t'aime », tu dois me dire l'amour. Mais l'amour aussi m'impose la loi et doit me dire aussi ben « là, j'arrive pas à t'aimer sur ce point-là. Parce que je te trouve laid, je te trouve pas beau sur ce point-là. Et j'aimerais tellement que tu grandisses sur ce point-là. Ou que tu m'expliques, en tout cas, pour que j'arrive à mieux t'aimer. » Ce regard à regard m'est nécessaire parce qu'il est, il me permet de, comme de me corriger dans la délicatesse. Très rapidement, pour finir, le mariage comporte des effets très concrets en nous. Je vais raccourcir un peu les choses. Le mariage, la grâce du sacrement de mariage, a pour un effet, qui permettra de synthétiser un petit peu l'ensemble, c'est le lien matrimonial. Le lien matrimonial. À partir du moment où on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre, avec la pauvreté de nos paroles, qu'on s'est tellement pauvre qu'on va s'appuyer sur la parole de Dieu, on va même demander à la parole de Dieu de descendre pour nous lier, et que la parole de Dieu même couvre notre propre parole, qui fait qu'il y a un lien, une dépendance, il y a l'authentique amour conjugal qui sera assumé par l'amour divin. Et cette institution qui va naître ne dépendra même plus de vous, ne dépendra même plus de l'Église. Il appartient ni à votre pouvoir, ni au pouvoir d'aucune institution humaine ni spirituelle. Il n'appartient même pas à l'Église de vous délier, ce qui est absolument fou. La seule chose qui pourra vous délier, c'est la mort, tant qu'elle n'est pas voulue par l'un des deux. Ce lien matrimonial, c'est l'assurance. C'est l'assurance que vous allez vivre cette alliance jusqu'au bout. Pas parce que l'Église est méchante et qu'elle vous a bloqué. En Argentine, on disait, pour les prisonniers qui avaient des menottes, parce que j'ai une autre mission en Argentine, de m'occuper de drogués. Donc c'est un autre genre, c'est pas vraiment le même genre de pitchoun, mais bon, c'est le même problème du cœur humain. L'homme qui n'est pas aimé est violent et généralement meurt. C'est, on disait, les gens connaissent pas ça, c'est que t'as les épouses. Ça veut dire qu'en effet, c'est une assurance. Tu es l'homme qui va t'occuper de moi jusqu'à la fin de ma vie. De mes petits coups de calgon, mes petits coups de blouse. Tu es la femme qui va t'occuper de moi jusqu'à la fin de ma vie. Dans mes petites faiblesses, devant, voilà, je ne précise pas. Et ça, c'est presque rassurant. C'est qu'on fait alliance, on va vieillir ensemble. Et quand tu seras vieux, je te changerai tes couches. Je t'essuierai quand la bave coulera de ton menton. C'est tellement beau de voir ces vieux couples. Ah, c'est moins rigolo qu'au temps des fiançailles ou petite fleur bleue. Mais on a du temps pour s'habituer à ça. On a du temps. On a du temps pour s'habituer à ça. Donc, ce premier effet, c'est ce qu'on appelle l'indissolubilité. Vous l'avez déjà entendu plein de fois. Et je vous le dis, c'est une souffrance pour beaucoup, mais en même temps, c'est une assurance. Cette fameuse indissolubilité. Ça veut dire que vous êtes liés. Vous devenez responsables l'un de l'autre pour toujours, parce que vous faites alliance. Et que ce visage à visage, il vous sera sûr jusqu'à la fin de vos jours. Hein, je revoyais, petit témoignage personnel, j'ai ma maman qui est partie d'une maladie un peu lourde, qu'on m'appelle la maladie d'Alzheimer. Et l'image, je m'excuse, mais c'est... On a pu ramener son corps à la maison, et parce que je suis l'aîné d'une grande famille, l'enfant du bon Dieu, comme on dit, un accident bête. Mes parents m'ont gardé, donc c'est quand même assez sympa. Hein. Mais on a ramené son corps à la maison, on l'a mis dans le salon, et ça me paraissait important que tout le monde passe du temps avec elle, devant son corps, pour la remercier, lui demander pardon, ou lui poser cette dernière gueulante. Pour une fois que c'était pas elle qui gueulait, donc on pouvait y aller. Hein. Et le soir, on disait à mon père, mais enfin, il faut aller se coucher, quoi, c'est bon, quoi. Alors je m'excuse, mais c'est l'image du chien fidèle. Enfin, dans toute la géographie, le chien est l'image de la fidélité dans tous les gisants des cathédrales. Mais il ne fallait pas toucher à sa femme en disant « Mais tant qu'elle n'est pas enterrée, je suis responsable de son corps. » Enfin, il est resté pendant 3 jours et 3 nuits. C'est moi qui avais fait la démarche de réclamer son corps. Et je m'embêtais parce que mon père n'a pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Même si on l'a... Enfin, il est resté là fidèlement en disant « Mais je suis responsable de ce corps. Et tant qu'il n'est pas enterré, vous ne me direz pas ce que je dois faire avec. » Et Luc est un homme plutôt doux, parfois faible. Là, je l'ai trouvé, entre guillemets, assez féroce sur « touchez pas au corps de ma femme ». Donc, l'indissolubilité qui est finalement une beauté, ce n'est pas une loi de l'Église, c'est une loi de Dieu. Parce que cette alliance, elle est scellée. Elle est scellée parce que vous l'avez voulu, parce que vous l'avez voulu. Et on se marie pas sur un acte d'amour, on se marie sur un acte de l'intelligence. C'est parce que vous l'avez voulu. Revenez toujours à cet acte de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on a voulu ? Qu'est-ce qu'on a voulu ? Première notion, c'est l'indissolubilité. Deuxième effet, c'est la fidélité. L'indissolubilité, j'ai envie de dire, vous n'y pouvez plus rien, vous êtes coincé. Et on vous a. La fidélité, c'est justement toute la manière active, inventive, attentionnée de tous les jours. La fidélité, c'est pas le fait de découcher, ça n'a rien à voir avec ça. L'infidélité, c'est de commencer à plus nourrir l'amour de l'autre, ne plus nourrir l'indissolubilité. L'infidélité, c'est quand je cesse de regarder l'autre dans les yeux, quand je cesse de, parce que j'ai du mal à accrocher son regard, de lui demander pardon, de lui dire je t'aime, et de lui montrer que je l'aime avec des actes concrets, qui ne sont pas forcément des actes du corps, mais qui sont des actes bien concrets de service, de disponibilité, d'attention, de petites surprises. Cette fidélité, c'est toute ma part active et inventive que je peux avoir pour nourrir l'indissolubilité à laquelle je ne peux plus rien faire. Et la troisième dimension, c'est la fécondité. Fécondité qui n'est pas d'abord les pitchounes, qui n'est pas d'abord le fait d'avoir des bébés, même si c'est important d'avoir un pitchoun. C'est un cadeau extraordinaire, même si parfois c'est compliqué à mettre en place. Mais la première fécondité, c'est d'être fécond en don de vie, c'est d'être fécond en l'autre. Ma première fierté en tant qu'épouse, c'est de faire un homme. Ce n'est pas de donner la vie à un pitchoun. C'est d'abord de faire que mon mari, je lui donne la vie. Et que ma femme, pareil, je fais d'elle une femme. Et ça, c'est la première fécondité. Comme 3 piliers du mariage, 2 piliers dont vous êtes acteur, la fidélité et la fécondité. Et comme vous savez, ceux qui sont ingénieurs, font les grandes études, un tabouret est tellement plus facile à 3 pattes qu'à 4 pattes parce qu'il est toujours bancal à 4 pattes. Donc 2 piliers pour assurer la stabilité par rapport à l'espace, et le dernier, hein, qui est l'indissolubilité, qui vient assurer la verticalité. Et puis pour terminer, la grâce du sacrement de mariage, la grâce qui est accordée, c'est... Pardon. La grâce qui est accordée, il faut que je retrouve mon papier, je me dis ce que disent l'Église, hein, juste de dire des bonnes paroles. Je ne sais plus où c'est marqué, en fait, c'est pas grave. La grâce, c'est cette responsabilité, cette participation... C'est-à-dire cette mission extraordinaire que Dieu fait de moi pour devenir responsable de l'autre. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Ce cadeau ne repose pas que sur moi. C'est que le couple, même s'il n'y a pas encore d'enfant, le sacrement de mariage est pour le couple, il n'est pas pour la famille. Le couple sera toujours premier, toujours premier. Et vous saurez même parfois mettre sur orbite vos enfants parce que vous devez vous retrouver en couple. Un témoignage d'un couple qui était très intéressant, qui disait à ses enfants adolescents, très accapareurs, il disait, ce soir, vous serez seul parce que je vais manger avec ma femme, je vais dîner avec ma femme. C'est hyper dangereux quand on commence à appeler sa femme maman et quand on commence à parler de sa femme à ses enfants en disant votre maman ou ta maman. La femme n'est pas d'abord une maman, elle est d'abord une femme. Elle est d'abord une femme, en plus elle est une épouse. Et l'homme c'est pareil, on est d'abord un homme, on n'est pas d'abord un papa. Parce que sinon vous allez fonctionner qu'avec des enfants, c'est vachement tranquille. Plus besoin d'être dans le regard à regard, face à face, vous occupez des enfants. Ça c'est tranquille, eux ils vous regardent comme ça. Tiens, t'as un mange, tiens, il me regarde. Il y a du tout la main d'ailleurs qui le nourrit. Et là, ça fait du bien, on est tranquille face à face, des yeux qui me regardent. On n'est plus là comme des andouilles en disant tu commences à prier, non, je commence. On fait comment? Bah, je sais pas, comment tu fais enfin, tu... Non, c'est. Les enfants, c'est tellement simple. Vous êtes tranquille, vous aurez des enfants, pour ceux qui n'ont pas, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de vous regarder, plus besoin de parler, vous parlerez des enfants, vous aiderez des enfants. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on arrive à la retraite, les enfants partent, là, c'est un peu flippant quand même, parce qu'on se retrouve comme deux andouilles. Il y a des yeux qu'on avait. Regarde, parce qu'on les a connus fiancés, si on les a pas revus depuis ce temps-là, avec les paupières qui retombent un peu comme ça, et avec les rides, on se dit la vache, je me suis fait avoir, c'est plus la même. Enfin, je dis, habituez-vous à ce regard qui s'embellit. C'est vrai qu'il s'embellit. Mais la grâce du mariage, c'est, je reviens encore une fois, c'est s'habituer à ce face-à-face. Et laissez absolument rien vous détruire, ni votre métier. Père Pierre-Marie viendra sur les choses assez concrètes, je pense, cet après-midi. Votre indissolubilité, c'est votre espérance. Ça veut dire que de par votre baptême, le sacrement du baptême et le sacrement du mariage, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné par avance. Vous avez déjà tout reçu. Maintenant, il faut le vivre. Il faut vous laisser habiter. Vous avez tout gagné. Le ciel est déjà gagné. Et c'est pour ça que je vous dis, d'une certaine manière, mes pitchounes qui s'éteignaient, et j'en accompagnais plein, et ça a toujours été révoltant pour moi, et parfois plus que pour certains que pour d'autres, mais c'était presque apaisant de savoir que sa vie était déjà achevée et que j'avais la ferme assurance que sa vocation était très bizarre, n'était pas du tout la même que la mienne ni celle de sa maman, mais elle était déjà accomplie et c'était tout gagné pour lui. Alors nous, c'est vrai qu'il y a du temps qui nous sépare entre le baptême et le mariage. Le mariage est et notre départ pour le ciel, mais c'est absolument nécessaire de cultiver, de perfectionner l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Je vous en supplie, le but, la grâce du mariage, c'est ce que nous dit le catéchisme, c'est l'entraide mutuelle pour se sanctifier. L'un l'autre. Vous serez amené aussi à sanctifier vos enfants, et puis votre prochain le plus proche, de proche en proche, votre paroisse, votre lieu de travail. Mais votre prochain le plus proche, c'est d'abord vous-même, sous votre vocation de baptisé. Ce qui fait que je suis baptisé, c'est que je suis guéri et sauvé par le Christ. Mon prochain le plus proche, après, c'est mon épouse, qui elle aussi a été miséricordiée et guérie par le Seigneur. On est deux pauvres, en fait. On est deux pauvres à qui le Seigneur a daigné proposer le face-à-face. On est deux pauvres qui sont à peine capables de supporter le regard de l'autre, et pour lequel il va falloir chaque jour revenir à ce regard. Et si on commence à baisser le regard, eh bien, demandons-nous pardon et repartons. Prenons les moyens de revenir, c'est pourquoi notre intelligence et notre volonté se sont engagées. Amen.